Bonsoir. Coronavirus ou pas coronavirus en République démocratique du Congo, le ministre de la Santé a officiellement annoncé l'existence du premier cas de coronavirus en République démocratique du Congo mardi dernier. Il s'agit, selon cette annonce officielle, d'un Congolais de 52 ans, en ce moment déjà pris en charge et dont l'état de santé avait été précisé stable. Mais depuis cette annonce, les réseaux sociaux sont en feu, discutant cette information du premier cas de coronavirus en RDC, relevant ce qu'ils qualifient à leur niveau d'incohérence dans la version de cette information, allant pour l'instant jusqu'à soupçonner un premier cas inventé de coronavirus en République démocratique du Congo. Alors, coronavirus ou pas coronavirus en RDC, nous en parlons dans un instant. Un groupe de citoyens manifestent à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, dénonçant les insécurités et réclamant la démission du gouverneur. Des messages de haine et de tribalisme pleuvent aussitôt sur eux et un autre groupe de citoyens opposés à cette première manifestation réclame à son tour d'organiser sa contre-manifestation pour soutenir le gouverneur. Contexte que certains notables du Haut-Katanga ont senti explosif et tout de suite découragé. Le gouverneur concerné a pour sa part décidé d'appeler la population à cultiver la paix, la tolérance et le vivre ensemble pour le développement de la province malgré les clivages politiques et ethniques. Jacques Kiabula a dans la foulée interdit l'organisation de toute marche dans le Haut-Katanga. Pour évoquer toutes ces actualités, nous serons exceptionnellement aujourd'hui avec deux invités seulement. D'abord, Edmond Izouba, rédacteur en chef du média en ligne objectif-info.cd. Edmond Izouba, bonsoir.
Bonsoir Donna, merci de l'invitation.
Et enfin, Jean-Baptiste Kambale, consultant indépendant et directeur de la radio Raku FM à Rutshuru. Jean-Baptiste Kambale, bonsoir.
Oui, bonsoir, bonsoir confrère, bonsoir.
Et directement pour alimenter davantage nos débats de tout à l'heure, voici la revue de presse.
Bonsoir. Le premier cas de coronavirus enregistré à Kinshasa est à la une des médias congolais. Le ministre de la Santé publique, Dr. Etienne Longondo, a fait savoir dans l'après-midi de mardi 10 mars qu'il y a bel et bien un premier cas de l'épidémie à coronavirus confirmé à Kinshasa, rapporte la prospérité. Il s'agit, ajoute le journal, d'un Congolais de 52 ans qui revenait depuis le dimanche dernier de France où il est résident. S'agissant du cas confirmé à Kinshasa, renseigne 7 sur 7.cd, le ministre de la Santé a assuré qu'il est mis en quarantaine et qu'ils sont en train d'identifier les personnes qui étaient en contact avec lui. Alors que le ministre de la Santé, Dr. Etienne Longondo, confirme le premier cas de la pandémie du coronavirus en RDC, le Congolais présumé atteint dément et regrette d'être abandonné, rapporte Forum des As qui s'interroge s'il s'agit d'une fausse alerte, une arnaque ou une distraction. Le journal estime que des informations en matière de santé publique devraient bénéficier d'un traitement rigoureux compte tenu de leur caractère sensible. Au-delà des analyses, controverses et incohérences dans la communication, le Phare fait remarquer que le coronavirus n'est plus une fiction pour les populations de la République démocratique du Congo en général et de Kinshasa en particulier. Au regard de cette situation, le docteur Jean-Jacques Muyembe, directeur général de l'Institut national de recherche biomédicale INERBE en sigle, affirme que si le coronavirus touchait la RDC, le taux de mortalité avoisinerait les 10% et cela compte tenu de la faiblesse du système sanitaire national, du sous-équipement des hôpitaux dans la filière de la réanimation et du déficit des désinfectants pour la protection du personnel soignant. Avec l'apparition de ce tout premier cas confirmé, renseigne le potentiel, la RDC a décidé de mettre en quarantaine volontaire ou forcée tous les voyageurs en provenance des 6 pays, à savoir la Chine, l'Iran, l'Irak, l'Allemagne, la France et l'Italie. L'urgence de multiplier les plateformes de diagnostic s'impose, conclut le journal. Quittons Kinshasa pour nous rendre dans la province du Haut-Katanga où Jacques Kiabula Katué, gouverneur de la province du Haut-Katanga, a interdit toutes les manifestations publiques dans sa juridiction où des tensions entre acteurs politiques et sociaux ont surgi après un regain d'insécurité dont le chef lieu Lubumbashi annonce actualité.cd. Dans un message télévisé, Jacques Kiabula Katué a clairement refusé la marche annoncée mardi par certains regroupements des jeunes pour soutenir ses actions dans la lutte contre l'insécurité. Aucune marche n'est autorisée jusqu'à nouvel ordre, dit-il dans un message télévisé. Depuis les manifestations contre l'insécurité, des jeunes arborant les effigies de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, plusieurs messages qualifiés d'incitation à la haine tribale circulent dans le Haut-Katanga. Digital Congo.net titre au Katanga, le gouverneur invite les filles et fils de sa province à cultiver la paix et la tolérance. Ce site d'information informe que le gouverneur s'est adressé particulièrement à la jeunesse.
Merci Kéline Kouté. Edmond Idzouba, rédacteur en chef du média en ligne objectif-info.cd. À ce stade, quelle autre information non évoquée jusqu'ici souhaiteriez-vous nous partager?
Merci beaucoup. Les informations les plus fondamentales sont donc celles qui concernent directement et étroitement la population. Je parlerai du panier de la ménagère. Et vous avez appris ce qui se passe dans le secteur de l'économie et la structure des prix, la spéculation depuis que le pays a enregistré la dépréciation de la monnaie locale, donc le franc congolais. Il y a une sorte de flambée sur le marché des biens et services. Le ministre de l'économie, Acacia Bandoubola, a lancé une équipe d'enquêteurs et de contrôleurs des prix et des structures de prix. Il n'y a pas plus tard qu'hier, le PDG de la société Sokin a été interpellé, tout simplement parce qu'il a fait l'obstruction au contrôleur et il ne voulait pas manifestement présenter sa structure de prix. Sokin, pourquoi Sokin? Parce que Sokin, c'est pratiquement la grande plateforme, je dirais, la famille d'entreprises qui sont spécialisées dans la vente des produits de première nécessité. Vous avez des tomates, vous avez des sucres, vous avez même les riz, vous avez du sel, vous avez tout. Pratiquement, c'est vendu par Sokin et ça occupe pratiquement tous les grands marchés de la capitale. Et voilà, le PDG qui a fait l'obstruction au contrôleur, ils ont fait appel au service de sécurité et le DG a été du coup interpellé. Il y a également ce foyer détention qui a élu à domicile, 10e rue Lumeté, je parlerai même de 11e rue Lumeté, les pneus ont été brûlés. Ici à Kinshasa, principalement, parce que à l'UDPS, il y a un grand désordre qui est orchestré. Hier, la nuit, Jacques Meshabani a été donc limogé de cette formation politique, de son poste du président de la commission électorale du parti. Il a été remplacé par un autre à son insu et c'est Kabound qui a signé cette décision. Alors, on ne sait pas si à l'UDPS, le désordre continuera avec des intérimaires qui nomment d'autres intérimaires, qui vous avez au niveau de la tête du parti un intérimaire, vous avez un secrétaire général intérimaire, vous avez même le président des fédérations intérimaire, vous avez même le président des ligues des jeunes intérimaires. Donc, ce régime d'intérim, nous ne savons pas quand est-ce que ça pourra prendre fin parce que c'est en train de déstabiliser la plus grande, je dis, la plus importante formation politique que nous avons dans le pays, que Étienne Tshisekedi a légué aux combattants, que l'actuel parti présidentiel, même le parti du président de la République, pourtant, il est prévu dans les statuts règlement d'ordre intérieur du parti, qu'un congrès devrait être organisé en ayant 60 jours après l'instauration du régime de l'intérim pour faciliter, favoriser à ce qu'il y ait des institutions, des structures, des bases légitimes. Merci. Mais depuis que Kabound est là, il ne manifeste aucune volonté. Toutes ces réformes voulues sont contestées. Nous savons pas quand est-ce que cette formation politique pourra retrouver sa plus belle robe d'attente ou un fonctionnement normal et une organisation interne qui pourra mettre à l'aise les députés et ses ministres qui sont au gouvernement.
Merci Edmond Idzouba. Jean-Baptiste Kambale, consultant indépendant et directeur de la radio Raku FM, à Rutshuru, à ce stade, votre avant-goût informationnel.
Ici, au niveau de Rutshuru, c'est l'information qui a circulé sur nos radios, c'est la suspension de la grève sur le lac Kivu au niveau de Goma, et aussi le mois de la femme avec des mouvements scientifiques qui continuent à multiplier des séminaires pour renforcer la sensibilisation sur les droits des femmes. Donc, c'est ce qui est vraiment d'actualité.
Merci Jean-Baptiste Kambalé. Nous commençons directement à nos deux thèmes de ce soir. Y a-t-il, c'est pas une question adressée à Jean-Baptiste Kambalé, mais c'est vraiment l'entrée en matière de notre sujet. Y a-t-il réellement un cas de coronavirus en ce moment en République démocratique du Congo ou pas? La question ne devrait en principe pas se poser vu que depuis mardi, le ministre de la Santé a officiellement annoncé l'existence du premier cas de cette maladie à Kinshasa. Un Congolais de 52 ans, en ce moment déjà pris en charge et dont l'état de santé était stable. Entre-temps, il se rapporte de plus en plus dans certains médias et dans l'opinion que la personne présentée comme étant le premier malade contaminé de coronavirus en RDC nie être malade et dénonce une séquestration. Alors, coronavirus inventé ou pas en RDC, grâce à Mzati, a posé la question au ministre de la Santé du pays. On les écoute.
Le patient se porte plus ou moins bien, en dehors du fait qu'il a les virus. Par exemple, la nuit dernière, il n'a pas présenté de signes de fièvre. Bon, ce que nous sommes en train de faire, c'est beaucoup plus suivre, du moins, les personnes avec qui il a été en contact. Jusque-là, on en a dénombré 109 personnes qui seront aussi mises en isolement. Il y a aussi les passagers avec qui il était en avion, le 8, quand il est arrivé. Nous sommes en train de travailler avec le service d'immigration. Nous avons déjà une liste de ces passagers-là et nous allons aussi les contacter pour qu'ils soient mis en isolement volontaire chez eux à la maison.
Où se trouve exactement le patient?
Non, mais le soin, c'est confidentiel. Hein. On ne peut pas le dévoiler comme ça. Là, ça va déranger la quiétude du patient. Sachez qu'il est isolé et il n'est pas en contact avec la population.
Il y a beaucoup de gens qui disent que les patients seraient à l'hôpital L'Amitié Sino-Congolaise. Ils contestent, ils disent que lui n'a pas ce coronavirus.
Il y a ce qu'il dit et ce qui est trouvé au laboratoire. Nos services ont détecté ce virus-là dans son corps. C'est sur base de quoi qu'il va dire qu'il n'a pas de coronavirus. Il y a des gens qui écrivent n'importe quoi dans les réseaux sociaux et le monsieur paraissait comprendre hier quand on lui a annoncé qu'il était contaminé.
Edmond Idzouba, rédacteur en chef du média en ligne objectif-info.cd, vous avez suivi ce feuilleton et vous continuez de le suivre comme la plupart d'entre nous. Quelle est à ce stade votre version des faits de cette affaire, coronavirus en RDC ou pas, ou même encore hein, un peu plus tôt ou peut-être un peu plus tard à venir?
Bon, sans pourtant c'est versé dans le commentaire qu'il y a dans tous les sens, dans les réseaux sociaux, mais aussi dans le quartier, les avenues. Vous savez, en Afrique, je dirais même, c'est le même commentaire qu'on voit partout. Les populations africaines pensent que depuis que l'OMS a annoncé une cagnotte au pays atteint par cette épidémie, directement, les pays africains ont commencé à déclarer les cas des épidémies ou des personnes infectés. Alors là, c'est un fait. Il y a aussi le fait que le ministre de la Santé lui-même ait annoncé la journée que c'était un sujet belge qui était atteint de cette épidémie venu de la Belgique et que le soir, il rentre, il fait
une autre communication
qui vient enterrer la première pour dire, voilà, il s'agissait d'un Congolais âgé de 52 ans venu de la France. Donc, il y a eu d'abord un erreur de communication. Quelqu'un devait en payer les prix. Si pas le ministre lui-même, ça doit être la personne qui lui a filé cette information. Ça m'étonne vraiment que le ministre ait le courage de parler, de continuer à faire des commentaires et laisse ces mensonges. Il n'a pas contredit la première information. Même la communication qui a été faite le soir, le ministre n'est pas revenu pour dire, voilà, excusez, c'était une erreur des données venues, par exemple, d'un médecin ou de mes services ou de mon cabinet. Mais le ministre ne l'a pas dit. D'après mes investigations, il s'agissait donc d'une erreur venue des cliniques Ngaliema. Le médecin principal n'a pas livré la bonne information autour de l'identité du malade ou du patient. Donc, mais ce qui est vrai et fondamental, ce qui est vérifiable même, c'est que la réalité est là devant nous. Que devons-nous faire?
Mais dans ce feuilleton, qu'est-ce qui est vraiment vrai et qu'est-ce qui peut être attribué à des racontats et tout ça? Est-ce que, à votre niveau, vous avez réussi à expliquer comment on est parti d'un sujet belge il y a quand même non seulement la nationalité, une nationalité qui a été égratignée, et on est passé directement d'un Congolais et deuxième nationalité, et puis une autre nationalité, la France vient s'immiscer dedans. Alors, comment expliquer cette confusion totale?
C'est pratiquement bizarre. Alors, la première information a bousculé les ambassades, ainsi de suite. On dit un sujet belge venu en RDC atteint. Et puis après, voilà, on essaye de fouiner. Ce n'était pas ça en réalité, c'est un Congolais. Et puis, bon, moi je considère cela comme un manque de sérieux d'abord de notre pays. Et puis, il y a un très sérieux problème de contrôle dans des hôpitaux. Comment quelqu'un peut venir se faire examiner? On le prend comme ça, sans pour autant avoir des informations nécessaires et suffisantes sur lui.
Alors, votre conviction, vous dit que c'est la personne, il y a coronavirus ou pas?
La personne qui porte la responsabilité, je ne suis même pas encore, je suis au niveau de la forme, oui, et de la communication. La personne qui doit porter les chapeaux du désordre communicationnel qui a régné dans le chef des Congolais, c'est le ministre qui s'est précipité à communiquer. J'imagine que c'était le moment où l'échantillon était arrivé à l'INRB. Et le ministre, comme responsable du secteur, devrait avoir un maximum de réserve, de retenue. Mais il la livre où, l'information? C'est à une radio périphérique.
Je ne connais pas très toute la procédure, mais ne devrait-il pas consulter la présidence, par exemple? C'est un cas très sérieux.
Pas du
tout. Ce n'est pas une maladie quelconque.
J'ignore même. Avec toute imprudence, les ministres donnent même le nom de l'endroit où le monsieur a été interné ou résidé. Ici, je viens de le suivre, il a refusé de nous dire où les malades étaient internés. Or, partout, la référence est publicitaire, même en France, même en Chine, là où l'épidémie est née. Partout, même aux États-Unis, les centres de mise en quarantaine et de prise en charge sont des caractères publics. Mais ici, le ministre refuse. Pourquoi il fait cette rétention? Donc, nous ne comprenons pas. Il ne s'agit pas d'une épidémie secrète ou privée du ministre, mais il s'agit d'une information
de santé publique.
De santé publique pour que les gens prennent au sérieux cette menace épidémiologique. Et des deux, il y a un problème. Ça, c'est le fond maintenant. Il y a un problème de système sanitaire en RDC. Le système de prise en charge. Ce qui pousse même à la personne qui est infectée de dire...
De démentir.
De démentir même l'information.
Parce que son nom est cité, sa réputation va être égratignée, j'imagine.
Les soins ne sont pas pris au sérieux. Il a dit lui-même, moi je l'ai suivi, qu'on est venu faire le prélèvement au niveau du sang, mais avec une seule seringue. Et les seringues est cassée, la seringue est cassée, on fait on prélève la salive, et puis ils sont partis. Et depuis qu'ils sont partis, ils l'ont laissé comme ça, et je pense pas que le monsieur avait quelque chose à manger là où on l'a placé. Il s'agit donc de l'hôpital de l'amitié sino-congolaise. Donc j'estime, un peu comme Ouyembe l'a dit, je l'ai suivi dans une de radio, en train de dire, voilà, avec d'ailleurs beaucoup de...
De regrets.
Comment dire, il ne confirmait pas vraiment l'info. Il dit, si cela est vrai, cette épidémie est là, nous allons ramasser des cadavres en RDC. Parce que là où les systèmes de prise en charge au niveau sanitaire sont efficaces,
notamment en
Italie et en Chine, mais déjà les personnels soignants se sentent épuisés. Mais ici, nous n'avons pratiquement rien, même pas le matériel de respiration. Donc, il ne sait pas comment, si cette épidémie-là
est
vraiment déclarée en RDC, comment la RDC pourra faire face du côté des personnels soignants qu'on n'encadre pas, qu'ils n'ont même pas suivi des formations, ils ne savent pas comment se protéger. Vous avez vu le jour où on devrait récupérer le malade dans son endroit, là où il était, comment on a envoyé les policiers à aller sécuriser l'hôtel. Même quand le personnel soignant était sur place, quels sont les dispositifs qui ont été mis en place pour que le monsieur arrive et atterrisse et entre dans l'ambulance.
Et donc, Zouba,
c'est terrible et compliqué.
Oui.
J'ai dit même c'est très grave pour la RDC qui ne continue pas de prendre au sérieux. Ils préfèrent faire des communications politiques à la place
des communications de santé
publique. Le vrai problème qui aujourd'hui devient une réalité en RDC d'après ce qu'on entend.
Merci Edmond Izouba, je vous coupe pas la parole, vous allez la reprendre tout à l'heure, le temps de la partager aussi avec Jean-Baptiste Kambale, consultant indépendant et directeur de la radio Raku FM à Rutshuru. Jean-Baptiste, vous avez certainement, même de loin en province où vous êtes, suivi ces informations. Quelle version en avez-vous retenu?
Oui, Donabon, quand il y a un communiqué officiel, ici, il n'y a pas de doute par rapport à ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans leur adresse à la presse à Goma, donc c'était le 11 mars, les docteurs Jean-Jacques Muyembe et le gouverneur Karline Zandou Kassivita, donc ils se sont réjouis d'abord de 22 jours passés sans aucun cas d'Ebola. Mais ils n'ont pas mis à l'ordre du jour coronavirus. Mais les journalistes ont forcé en établissant les liens entre le coronavirus et le virus à Ebola. Donc les maladies à virus à Ebola. Le professeur Muyembe n'a pas tardé, lui, à émettre une inquiétude, bien sûr, quant à la capacité des instituts sanitaires de la RDC à faire face à cette épidémie. Donc, il a soulevé des problèmes d'équipement, manque de désinfectants dans les instituts sanitaires. Mais il a également considéré la zone attaquée par coronavirus en Europe comme au Moyen-Orient et que le nombre de contaminés, le nombre de décès, pour Muyembe, il a fait savoir que la maladie à virus Ebola fait plus de victimes. Hein. Ah, donc, en France, on est à plus de 1000, si j'ai bien suivi, 1784 cas de coronavirus avec 33 décès. Bon, nous, ici, nous devons savoir que pour les auditeurs de la RACU, de la radio Okapi, la maladie à virus Ebola a été déclarée en Okapi. C'était le 1er août 2018. Et là, ce virus a contaminé plus de 3200 personnes à ce jour. Et puis, il y a plus de 2000 qui en sont mortes.
Alors, en écoutant les différentes versions de ce premier cas de virus de coronavirus en République démocratique du Congo, la réaction des experts comme Jean-Jacques Muyembe et tout ce qui continue de se raconter sur la toile et dans d'autres médias, et même la dernière interview du ministre de la Santé, dont un extrait vient de vous être proposé sur Radio Okapi dans ce débat. Quelle impression avez-vous de toute cette actualité? Est-ce que vous-même, vous pensez que effectivement ce cas est un cas sérieux ou il faut encore continuer de bien l'enquêter?
Bon, en fait, ce n'est pas que la RDC peut rester épargnée de cette maladie-là quand il y a environ 10 autres pays de l'Afrique qui en sont victimes. Nous avons l'Algérie, le Sénégal, l'Égypte, le Burkina Faso, le Togo, le Cameroun, la République sud-africaine, Nigeria, le Maroc, Tunisie. Vous voyez, donc là, nous n'avons pas vraiment, nous ne pouvons pas avoir des doutes, mais ce qu'il y a des informations, ou bien soit il y a manque de coordination dans la gestion de l'information.
Alors, commençons par le début. Comment expliquez-vous que le ministre, qui a beaucoup de services avec lesquels il collabore, qui doit prendre tout son temps, il est médecin lui-même, si je ne me trompe, comment a-t-il pu commettre, primo, d'abord l'erreur de l'identité de la personne, secondo, communiquer avec une certaine maladresse sur les mesures à prendre, sur la procédure qui a été utilisée pour gérer le malade, et surtout du lieu où, semble-t-il, on l'aurait mis, l'État avait présenté dans un premier temps un lieu très reculé en périphérie à l'est de la capitale où du matériel et un espace avait été aménagé, mais finalement c'est pas là-bas, semble-t-il, que la personne a été orientée. Comment expliquer tout ça?
Oui, donc ce que nous devons retenir dans tout ça, c'est que quand le ministre lui-même de la Santé ne sait pas respecter la chaîne de communication. Peut-être il n'a pas vraiment des subalternes qui s'informent comme il faut et qui peut et qui savent comment documenter. Parce que si cela s'avère vraiment vrai, tout ce qui est en train de se dire dans les réseaux sociaux, donc nous allons nous tous conclure qu'il n'y a pas de sérieux dans la prise en considération de cette question de virus de coronavirus en RDC. Et alors, on est obligé d'avoir peur de tout ce qui peut arriver. Car on ne sait même pas gérer la première information, s'il vous plaît. C'est la première information. C'est le premier cas qui pouvait d'abord attirer l'attention et du ministre et de tout le monde et pour rechercher la véracité avant de communiquer.
Du coup, à ce jour, depuis ce matin, depuis hier déjà et aujourd'hui, qu'avez-vous constaté dans le comportement des gens? Est-ce que les gens qui étaient même, signalons que à Rutshuru, dans tous les Kivu, les gens sont plus ou moins déjà un peu habitués à certaines règles de conduite? Est-ce que par rapport au coronavirus, avez-vous vu des comportements nouveaux adaptés au coronavirus ou pas?
Pas de comportement nouveau par rapport au coronavirus. Donc, ce qui s'est fait, c'est par rapport à Ebola et à Ebola, et Ebola qui est en train d'être donc déclaré fini dans la province, mais les stations de lavage des mains au niveau des passages, donc des barrières, donc péage et route, les passagers continuent toujours à se laver les mains, bon, comme d'habitude. Bon, à Goma, au niveau de l'aéroport, bon, c'est toujours par rapport à Ebola, mais selon les informations à notre possession, il n'y a pas ni d'affiche par rapport à coronavirus. Même nos avions, les avions n'ont même pas de dépliant à l'intérieur où les passagers peuvent être informés par rapport à coronavirus pour qu'à la descente de l'avion, qu'ils sachent quel comportement prendre. Donc, ouais, tout ça, ça fait dire qu'il n'y a pas vraiment de communication officielle qui vise à sensibiliser la population par rapport à cette maladie, et ça va être une catastrophe plus que ce que nous avons enregistré avec Ebola en tout cas.
Souhaitons que ça ne soit pas le cas. Merci Jean-Baptiste Kambale. Revenons avec Edmond Izuba dans ce studio pour justement écouter son analyse, notamment par rapport à quelques-unes des questions que j'ai posées à Jean-Baptiste Kambale. Avant même qu'on ait annoncé l'existence d'un cas, nous avons entendu plusieurs communications du ministère de la Santé, nous rassurant, nous donnant d'abord les mesures
absolument
à prendre, mais nous rassurant que Corona aura du mal à passer en RDC parce que avec le dispositif Ebola, avec le système de santé, au niveau des frontières, il est difficile qu'on ait un cas où si ça arrive, on le gérera mieux, qu'il y a du matériel et un aménagement bien connu où on va orienter les gens. Mais pas, une fois que le premier cas arrive, d'abord, c'est l'identité de la personne qui est difficile à déterminer. Ensuite, on amène la personne à gauche et à droite. On lui donne pas à manger. Il y a toute une confusion autour de ça. Comment expliquer
C'est ça, effectivement. C'est-à-dire que la frontière, moi, je pleure surtout pour nos frères qui sont à l'intérieur du pays, ceux qui sont proches des pays limitrophes où nos frontières sont poreuses. Il y a des entrées et des sorties. L'épidémie est en train pratiquement de quadriller l'Afrique centrale. Il y a des cas qui vont entrer certainement par ces frontières qui ne seront peut-être pas contrôlés parce que il n'y a pas de dispositif que le ministre cesse de tromper. Ils ont fait de la communication politique. Pendant toute une semaine, nous faisons croire que voilà, l'État est responsable, l'État a pris des mesures, mais un cas est entré comment en RDC? Comment le monsieur a pu quitter l'endroit qu'il était pour arriver à Kinshasa, être logé, rendre visite même à sa famille,
personnes.
Aller à... Aujourd'hui, on compte au moins 119 contacts que le monsieur aille à fréquenter. Mais le ministre certainement nous refusera de nous dire quelles sont les prises en charge que ces gens bénéficient de ces 119 personnes. Pas du tout. Alors, il y a aussi un très sérieux problème, ça on n'en parle pas, les impacts économiques que ce virus crée dans des pays.
Tout à fait.
Nous avons entendu, en Chine, c'est plus de 6 milliards de dollars qui a été décaissé dans l'espace d'une semaine pour construire une zone en quarantaine.
Parce que ça bouleverse les comportements, les habitudes et beaucoup de choses. Dernière question sur le coronavirus, parce qu'il faut qu'on passe à un autre deuxième sujet. Pensez-vous que dans toute cette histoire de coronavirus en République démocratique du Congo, il y a eu incompétence des responsables ou des personnes impliquées, ou il y a eu une simple maladresse?
Il y a eu deux choses. Non seulement il y a eu négligence dans le fait, dans les dires du ministre, dans la transmission des informations, je dirais même dans la livraison d'informations. Parce que le ministre s'est précipité pour livrer à la masse des informations brutes, ce qui était susceptible de créer même une panique générale. Mais il y a eu aussi incompétence. Le ministre ne parle pas comme ça. Le ministre parle après avoir eu toutes les informations nécessaires parce qu'il y avait d'autres détails stratégiques qui ne devraient pas être dits. Maintenant, voilà que même le malade lui-même, le patient, s'est mis en insécurité. Donc, le ministre a mis en insécurité les patients. Tout le monde passait vers devant cet hôtel pour prendre des photos. Je ne sais pas si même les clients vont encore à nouveau
passer à côté de cet hôtel-là.
Donc, les gens venaient et surveillaient à distance les mouvements. La preuve en est que même le patient a été filmé quand il entre dans le véhicule. Le ministre n'a pas à dire, voilà, nous n'allons pas dévoiler là où il est. Nous n'allons pas dire les noms des gens ici. La population est déjà au courant. Donc, c'est vrai. On accepte parce que c'est arrivé, c'est le Congo, mais quelqu'un doit démissionner. Si pas le ministre, le responsable de clinique Ngaliema doit jeter l'éponge.
Ok, merci Edmond Izouba. Ceci nous conduit à notre deuxième thème de la soirée, qui n'est pas un thème si simple que ça. Au Katanga, le gouverneur de cette province appelle la population à cultiver la paix, la tolérance et le vivre ensemble pour le développement de la province malgré les clivages politiques et ethniques. Jacques Kiaboula a lancé cet appel lundi à la suite des messages de haine tribale propagés dans les médias sociaux. Le gouverneur du Haut-Katanga a par la même occasion interdit l'organisation des marches dans la province jusqu'à nouvel ordre. On l'écoute au micro de Jean Gandou.
Je vous exhorte, en tant que père de la province du Haut-Katanga, au-delà des clivages politiques et ethniques, de vivre en paix, de travailler dans la sérénité, de pratiquer chacun en ce qui le concerne, dans la tranquillité, ses activités. Ainsi donc, aucune marche, quelle que soit sa forme, n'est autorisée demain et même les jours à venir. Et cela jusqu'à nouvel ordre. Je voudrais m'adresser particulièrement aux jeunes, qui du reste sont manipulés par certaines personnes à mal de positionnement pour tenir nos valeurs en tant que responsables de demain. Chers jeunes, regardez autour de vous. Vous constaterez que la gestion de la chose publique a été donnée à la jeunesse. Celle-ci n'a pas le droit de gâcher cette chance immense. Ce message doit vous interpeller et vous appeler à la retenue. Il y a plus de bénéfices à gagner ensemble pour développer notre province que de tirer un vain profit par un groupe de personnes. Je vous invite tous, filles et fils du Haut-Katanga, à cultiver la paix et la tolérance sans lesquelles il nous sera difficile de vivre ensemble.
Alors nous avons clôturé le premier thème avec Edmond Izouba. Nous allons ouvrir le deuxième avec Jean-Baptiste Kambale, consultant indépendant et directeur de la radio Raku FM à Rutshuru. Jean-Baptiste Kambale, c'est vrai que cette actualité a lieu dans une province assez éloignée de la vôtre, mais quelle réflexion suscite en vous cette actualité de cohabitation entre populations dans une province?
Bon, l'appel du gouverneur, c'est normal qu'une autorité de la province puisse quand même faire cet appel. Mais ce qu'il faut chercher à connaître, les conflits dans le Katanga a une histoire. Donc, a une histoire. Et puis, il faut voir la jeunesse, ce que la jeunesse représente. Donc, si les politiciens, parmi eux, il y a ceux qui sont connus comme auteurs de conflits dans l'ancien temps, et il y a d'autres qui sont au pouvoir, bon, qui sont bien positionnés, ceux qui sont en mal de positionnement, peut-être, bon, veulent-ils utiliser la jeunesse dans ces conflits pour se créer encore de la place au sein de la population katangaise? Bon, donc ce sont des questions qui sont en train d'être posées par l'opinion par rapport à ces informations-là. Bien sûr, la liberté d'expression, la manifestation, bien sûr, liberté de tenir des réunions, mais les conflits, hein, la haine ethnique, d'où vient-elle? Alors, qui sont les auteurs? Est-ce que le gouverneur peut se limiter seulement à dire que non, il ne faudrait pas? Pourquoi ne veut-il pas diligenter une enquête pour identifier les auteurs? Qui sont les tuyaux de ficelle qui sont derrière ces actions de haine tribale?
Alors, voilà. Alors selon vous, comment expliquer déjà que régulièrement au Katanga, il y a, c'est vrai qu'il y a des conflits ethniques, généralement, on les entend ces jours-ci un peu partout dans certaines provinces, mais généralement au Katanga, il y a comme une espèce de conflit tribal, pour lequel on va pas citer les tribus en conflit dans ce débat, mais on connaît plus ou moins le nom du conflit tribal qui est régulier au Katanga ou entre guillemets les Katangais menacent toujours une catégorie de Congolais qui eux ne seraient pas des Katangais et viendraient d'ailleurs. Comment comprendre ce conflit?
Bon, oui. Donna, il faut également se poser la question pourquoi cela arrive-t-il car il y a des gens qui attendent des nominations déjà au niveau des entreprises publiques, voilà, toutes ces questions, on peut vouloir savoir bon, qu'est-ce qui est derrière tout ça. Et puis il y a bon, le gouvernement va parler des clivages politiques, mais bon, lui-même est politique, lui-même est politique, et bon, nous ne pouvons pas vraiment savoir ce qui est derrière, mais je pense que la haine ethnique, bon, ce n'est pas seulement au Katanga, Donna, mais il faut savoir que la haine ethnique, c'est presque dans plusieurs provinces.
Comment... À votre sens, en tant que Congolais, pouvez-vous comprendre que les Congolais du 21e siècle soient encore là, en train de se menacer, en train de vouloir risquer l'échec de développement de leur province, en s'accusant mutuellement d'être ressortissants de la province ou non ressortissants de la province? Est-ce que de tels comportements, vous pouvez les comprendre? Comment les comprendriez-vous?
C'est ce qu'ils ignorent, ceux qui cherchent le pouvoir en attisant la haine. Il faut savoir que pendant ces siècles, là, nous ne pouvons pas voir cette jeunesse-là qui est en train de se ranger derrière une personne parce que cette personne veut se faire positionner, donc veut être reconnue au niveau de la République pour qu'il soit tel ou tel. Donc je ne pense pas un jour où ça va tourner contre ceux qui sont en train de s'aimer. Cette haine là, on sait de la population, la jeunesse est en train d'être éclairée, donc ils sont en train de, donc les jeunes sont en train de voir un peu loin, parce que tout le monde cherche le développement du pays et non pas la guerre et le conflit et le sous-développement. Donc je pense que ceux qui sont en train de chercher à se positionner au niveau politique devraient utiliser d'autres stratégies et non pas les stratégies de la haine tribale.
Merci Jean-Baptiste Kambale, Edmond Izuba. Comment comprendre cette menace assez régulière au Katanga? Jean-Baptiste Kambale et moi-même avons indiqué qu'il n'y a pas que au Katanga, qu'il y a parfois des tensions tribales et des indexations. Comment comprendre ce conflit au Katanga qui revient régulièrement? Est-ce de la manipulation politique, comme a tenté de l'expliquer Jean-Baptiste Kambale, ou il y a une autre explication aujourd'hui?
Alors, il y a plusieurs choses à la fois dans cette province. Nous avons vu le gouverneur Jacques Kiaboula arriver en pompe, travailler comme un excellent gouverneur ou sur les traces de Moïse Katumbi. Il y a eu quand même beaucoup d'effets médiatiques, beaucoup d'effets de publicité, des actions, ainsi de suite. En tout cas, il a donné une très bonne impression. Son gouvernement a été composé des jeunes. Mais du coup, tout commence à changer. Tout commence à changer quand? Parce que il y avait une minorité qui sentait que le gouverneur ne travaillait pas bien. Ils ont organisé une marche, ils sont allés dire au gouverneur, ainsi de suite, nous allons marcher encore de nouveau si notre situation ne s'améliore pas. Du coup, paf, une clique de jeunes, en tout cas visiblement proche du gouverneur, qu'on connaît, incite à la haine tribale, et nous avons vu Gédéon Kyungu, ancien seigneur de Gueur, qui a fait des apparitions avec ses hommes en plein centre-ville de Lubumbashi. Mais bien avant cela, l'insécurité était devenue récurrente à Lubumbashi. On tuait à Lubumbashi. On arrêtait des hommes en armes à Lubumbashi.
Mais ça aussi, c'était déjà un peu avant
bien sûr,
l'installation du nouveau gouvernement.
C'était peut-être le signal. Mais actuellement, Lubumbashi, d'après les informations que nous recevons de parts et d'autres, la ville devient invivable. Donc, vous pouvez rester calme la journée et les soirs entendre des détonations.
Parfois même, on vous annonce qu'on viendra visiter chez vous.
Absolument. Donc, aujourd'hui, les discours séparatistes sont alimentés par les proches du gouverneur. Et voilà pourquoi, moi je dis, le gouverneur a parlé, oui, il a parlé. Mais je crois qu'il est allé un peu trop loin quand il dit « Nous suspendons le marche jusqu'à nouvel ordre ». Ben, il s'agit de quelle marche? Donc, je crois que là, il est allé un peu au-delà de ce qu'il devrait faire. Il devrait, bien que les menaces étaient là, il devrait quand même prendre une décision et se limiter quelque part. Mais là, il dit « Il suspend le marche jusqu'à nouvel ordre ». D'après les informations, j'ai entendu que le gouverneur a été convoqué à Kinshasa pour essayer d'expliciter ce qui se passe dans son province.
Et mais comment en réalité, est là
mais en réalité, il s'agit d'un conflit quelque peu, je dirais, de positionnement. Parce que moi, je n'ai jamais compris pourquoi Gédéon Kyungu l'a gardé à Lubumbashi. La personne qui a plus fait du mal au Katangé a été reçue en triomphe comme un trophée à Lubumbashi par l'ancien régime. Et aujourd'hui, Gédéon Kyungu n'a jamais été inquiété. Il est gardé là-bas. Et des deux, le fait que la ville de Lubumbashi regorge le poids lourd, Moïse Katumbi, Kyungu Akumwanza, vous avez Jean-Claude Muyambo. Donc, le gouverneur gouverne avec ses opposants le plus redoutable. Donc, il s'est fait qu'il y ait des soupçons, d'après le proche du gouverneur, qu'il y ait des soupçons du genre, voilà, on veut renforcer le gouverneur de son fauteuil pour placer quelqu'un d'autre. Donc quelqu'un qui arrangerait un autre camp politique. D'où il y a des laboratoires politiques, des états-majors qui y travaillent, qui font des discours, mais du côté des opposants, on ne remarque pas assez de mouvements parce que j'ai lu un communiqué, Kyungu Akumwanza appelait ses combattants à ne pas se mêler dans tous ces désordres et dans toutes les marches qui seront organisées dans la ville de Lubumbashi pendant ces derniers temps. Donc, le gouverneur est le seul à prendre des décisions, oui, mais il doit se référer et il doit faire appliquer la loi. Il ne doit pas laisser les gens dire... Parce que, vous savez, le laxisme, c'est quoi? C'est de laisser les gens faire des appels à la haine tribale et les laisser proche de vous ou les laisser en liberté.
Tout à fait.
Ils devraient prêcher par les bonnes actions ou les actes qui,
ou les bonnes sanctions, si c'est
qui peuvent faciliter à ce que ce genre de discours ne puissent pas être prononcés ni passés dans le média. Mais le monsieur qui a fait le discours, on m'a même dit qu'il est dans son circuit de sécurité et l'autre qui engage un mouvement de jeunes, il est avec lui à tout moment. Donc le gouverneur devrait d'abord le mettre à la disposition de la justice pour qu'il soit sanctionné, pour qu'aucune autre personne aille dans le même sens. Mais les laisser libres, moi j'estime que le gouverneur est allé un peu trop loin. Même s'il vient à Kinshasa, même s'il sera réproché, mais j'aimerais qu'aujourd'hui à Lubumbashi, Gédéon Kyungu soit entre les mains de la justice, les individus ou les acteurs ou les leaders de la jeunesse qui divulguent ces messages de la haine tribale soient également à la disposition de la justice.
Merci Edmond Izouba, merci à Jean-Baptiste Kambalé, à tous les deux messieurs d'avoir participé à ce numéro de Tribune de la Presse. Willem Lungamba, Kéline Kouté, Axel Goncho m'ont aidé à préparer cette émission. Dona Madimba, c'est moi à la présentation. Tribune de Presse finie pour ce soir. Merci de votre attention. Au revoir.